La guérison de l'aveugle dit de Jéricho en Marc 10 est une guérison d'un aveugle parmi d'autres dans l'Évangile. Le problème, c'est de savoir en quoi ce récit d'un acte de guérison, je dirais d'un acte médical, vieux d'il y a 2000 ans, peut nous concerner. Alors certes, cela pourrait concerner ceux qui aujourd'hui sont aveugles et qui pourraient ainsi penser qu'il suffit de demander au Christ la guérison pour que leur infirmité cesse, mais ce n'est pas tellement ce que nous prêchons aujourd'hui et nous n'attendons pas dans nos églises réformées, ici en tout cas, des guérisons miraculeuses lorsque nous sommes malades. Et la plupart de mes paroissiens, s'ils ont des problèmes oculaires, vont voir un médecin ou un chirurgien plus que leur pasteur. Alors d'autres disent que l'intérêt de ce texte, c'est de prouver que Jésus est extrêmement fort et que donc il est bon de croire en lui. En effet, ce serait une sorte de démonstration de puissance divine du Christ, d'une certaine manière. Cela ne peut être vrai, mais ne m'intéresse pas tellement non plus. Parce que si l'on croit que Jésus pouvait guérir les aveugles à l'époque, mais qu'il ne le peut plus aujourd'hui, alors où est passée sa puissance divine ? Donc, d'une certaine manière, il faut être cohérent. Si l'on croit dans les guérisons de l'Évangile, il faut croire qu'elles ont encore lieu aujourd'hui et attendre cela. Ce que font d'ailleurs certaines églises, qui font des réunions de prière pour guérir les aveugles, les paralysés et d'autres. Et il y a là une certaine cohérence. Mais je suis toujours gêné par l'idée que Jésus ait pu faire des miracles à une époque et qu'il ne les ferait plus aujourd'hui, comme si le Christ ressuscité était inférieur au Christ durant son ministère. Et dans tous les cas, cette puissance qu'il démontrerait donc de son vivant ne me toucherait finalement qu'assez peu. Et donc je crois qu'il faut faire un gros effort pour essayer de savoir en quoi ce récit d'une guérison miraculeuse peut me toucher, moi, aujourd'hui. Or, il y a, vous savez peut-être, un grand principe dans la lecture de la Bible, c'est de croire que tout texte biblique parle de moi aujourd'hui et maintenant. Et donc, chacun de vous ici présent, vous êtes l'un des personnages de ce texte. Et du coup, le sens jaillit d'une façon évidente, dirais-je. Parce que, effectivement, vous pouvez vous dire que dans tous les cas, cet aveugle de Jéricho, eh bien, c'est vous, c'est moi. Et c'est vrai que ça peut être vous ou ça peut être moi, parce que moi-même, je ne vois pas toujours clairement qui je suis, je ne vois pas clairement qui est Dieu, je ne vois pas clairement où je vais, ce que je dois faire, ce que je peux faire. Bref, il y a beaucoup de choses que je ne vois pas. Donc certainement, je suis aveugle. Et je crois de tout mon cœur que le Christ peut m'ouvrir les yeux et que le Christ peut me permettre d'y voir plus clair. Et alors du coup, voilà une manière peut-être, effectivement, de lire ce genre de récit. C'est de se dire, ce récit montre de quelle manière le Christ peut ouvrir les yeux de quelqu'un et de quelle manière, de cet aveugle que je suis, il peut faire quelqu'un de clairvoyant, quelqu'un auquel il donne la lumière. Il est vrai que l'aveugle est une belle image de ce que je peux être moi ou de ce que sont un certain nombre de mes contemporains. L'aveugle, c'est celui qui n'a pas de visée, celui qui ne voit pas où il va. Et en effet, je crois qu'un bon nombre de nos contemporains avancent sans avoir de visée dans leur vie. La visée, c'est de voir loin, d'avoir un idéal, un objectif, de savoir où l'on va, de pouvoir choisir sa propre route. Et je crois que trop de gens aujourd'hui, comme autrefois, mais trop de gens aujourd'hui encore, eh bien finalement vivent sans viser, sans voir loin, et vivent au jour le jour, parce que nous sommes pris, il est vrai, par les exigences du quotidien. Alors on fait chaque jour ce que l'on a à faire en essayant de survivre, mais finalement sans aucune visée lointaine. Et ça, c'est assez dangereux, je crois. Parce que quand on n'a pas cette visée, justement, cette visée de la foi, quand on n'a pas cet idéal dans sa vie, eh bien finalement, on vit un peu comme un aveugle qui n'avance qu'à tâtons et qui finalement ne va nulle part, se finit par tomber dans tous les pièges de l'existence, se cogne aux arbres, et puis en fin de compte, On a tellement assez, au bout d'un certain temps, de tomber dans tout et de se cogner dans tout sans rien voir venir, finit par se décourager et s'assied sur le bord du chemin en disant « j'arrête d'avancer parce que tout cela ne mène à rien ». Donc c'est vrai que cet aveugle de Jéricho est une belle image de l'aveugle d'aujourd'hui, parce qu'on nous dit qu'il est assis sur le bord du chemin, c'est-à-dire qu'il n'est plus en marche, il arrête, il en a assez de se cogner à tout et de n'aller nulle part sans savoir où il va. Et ce n'est pas tout d'ailleurs, parce que le texte nous dit qu'il était devenu mendiant. Et ça c'est intéressant aussi, parce que peut-être est-ce également ce qui menace celui qui n'a pas de visée dans son existence. Le mendiant, c'est celui qui n'arrive plus à se prendre en charge lui-même et qui doit dépendre des autres pour vivre. Le mendiant, c'est celui qui attend que l'autre lui permette de vivre et l'amène en le tenant par le bras là où il ne veut pas aller. Ce qui arrive certainement à beaucoup aussi de nos contemporains, ou peut-être aussi parfois à nous-mêmes, quand nous finissons par ne plus être pilotes de notre propre vie, quand nous nous décourageons et quand, en fin de compte, eh bien, c'est le cours des événements ou quand ce sont les autres qui nous trimballent là où nous n'avons pas forcément envie d'aller. Donc oui, c'est ça, cet aveugle, eh bien, qui finalement s'assied sur le bord du chemin, attend, perd son autonomie, devient dépendant des autres. C'est certainement l'image de ce qui menace celui qui n'a pas de visée. Alors le Christ va être celui qui permet de voir plus clair. Le Christ est celui qui peut nous permettre de trouver où nous voulons aller, qui peut nous donner la lumière qui éclaire notre route. Et là, je trouve remarquable d'ailleurs l'attitude du Christ, parce que devant cet aveugle, qui est donc, comme vous l'avez compris, quelqu'un d'un petit peu perdu, le Christ arrive et ne lui dit pas « Mais mon ami, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es aveugle? Tu ne vois pas où tu veux aller ?» Eh bien, Jésus ne lui dit pas « Viens, donne-moi la main, suis-moi aveuglément et il ne t'arrivera rien. » Ça, ce serait le chef de secte. Le chef de secte, devant des gens déboussolés, il leur dit « Venez, moi j'ai la vérité, j'ai le chemin, je sais tout, faites ce que je vous dis, croyez ce que je vous dis de croire, suivez-moi et je vous amènerai à bon port. » Jésus ne dit pas à l'aveugle « Suis-moi aveuglément », il lui dit « Qu'est-ce que tu veux? Tu veux voir? Eh bien ça, je crois que c'est une bonne idée. » Et il lui ouvre les yeux. Lui ouvrir les yeux, c'est lui donner l'autonomie, lui donner la possibilité de choisir sa propre existence. C'est lui donner la possibilité de décider par lui-même où il veut aller en connaissance de cause. Et il y a là donc plusieurs messages théologiques, dirais-je. L'un d'abord, c'est que le Christ considère que la liberté du croyant est quelque chose de fondamental. Jésus ne dit pas à l'aveugle « Mais si je t'ouvre les yeux, qu'en feras-tu? Est-ce que tu vas en faire bon usage? Est-ce que tu vas suivre une bonne route? Est-ce que tu vas regarder ce qu'il faut? Ou alors profiter de ton regard pour le poser sur des choses mauvaises ?» Non, il lui dit « Je crois que ta demande de pouvoir choisir par toi-même ta vie est en soi une demande légitime, et moi je te donne la possibilité de choisir. » Il ne lui impose rien, aucune condition, et il lui donne cette espèce de grâce, comme si la liberté était quelque chose de fondamental et que la chose la plus importante, le point de départ, c'était que l'individu puisse voir par lui-même et choisir par lui-même son chemin. Ensuite, il ne met, vous disais-je, aucune condition. Et ça aussi, c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il fait une sorte d'a priori de confiance à l'aveugle en disant « Bon, et bien, écoute, je te donne la vue, et puis après, c'est toi qui verras, c'est le cas de le dire, ce que tu en feras. » Je vous disais qu'il ne met aucune condition, aucune menace, aucune demande de promesse, de quoi que ce soit, de faire bon usage de cette liberté. Il lui donne simplement la liberté, comme si cette liberté était une valeur en soi. Alors évidemment, je suppose que Jésus espérait que l'aveugle fasse bon usage de cette liberté, mais en tout cas, il la lui donne. Il lui donne de pouvoir choisir sa propre route, de pouvoir avancer par lui-même, et en tout cas de pouvoir trouver là où il va. Autrement dit, ce qu'annonce ce récit de guérison, ce n'est rien d'autre que ce que l'évangile de Jean dira d'une façon plus conceptuelle, quand l'évangile de Jean fera dire à Jésus « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà. Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », il ne parle évidemment pas de la lumière qui se compte en kilowattheures, c'est une lumière intérieure. De même que là, ce que donne Jésus à l'aveugle, c'est une vision intérieure, c'est pas nécessairement une vision physique. Je connais moi-même des aveugles physiques qui sont infiniment plus clairvoyants que des gens qui ont 10 dixièmes à chaque œil et qui ne voient rien de l'essentiel qui est autour d'eux. Parce que, vous le savez, l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc voilà, la guérison, toutes les guérisons d'aveugles fonctionnent un petit peu sur ce mode-là, et nous croyons que Jésus est la lumière du monde. Ce que l'on peut se demander, c'est qu'a de particulier cette guérison-là? En effet, là, nous avons une guérison particulière, et je crois que toutes les guérisons d'aveugles de l'Évangile ne sont pas semblables. Là, il y en a une particulière qui nous permet d'aller plus loin, c'est-à-dire que c'est un cas, dirais-je, d'aveuglement, un cas de quelque chose qui permet de voir comment Jésus peut nous permettre à l'aveugle de dépasser sa situation. Alors pour trouver ce que Marc a voulu dire, il faut travailler comme un détective. Vous savez, le détective, quand il est devant une scène qu'il ne comprend pas, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde tous les détails de cette scène jusqu'à ce qu'il trouve un détail qui lui semble curieux, étrange, et qui semble ne pas coller avec le reste. Alors souvent, l'art de l'exégète, du lecteur de la Bible, est l'art du détective. Donc on regarde un texte et on se dit qu'est-ce qu'il y a qui accroche l'attention dans ce texte, qui pourrait servir de point de départ. Ce qui m'a intéressé, l'indice, je dirais, sur lequel moi j'ai buté en lisant ce texte, c'est le moment où le texte dit que quand l'aveugle va être guéri, on nous dit « l'aveugle laissa son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus ». Et je me suis dit « mais pourquoi est-ce qu'il faut que l'aveugle laisse son manteau pour être guéri ?» Je dirais « après tout, ça n'a aucun intérêt comme détail. Pourquoi faut-il qu'il laisse son manteau ? On aurait pu nous dire « l'aveugle se leva d'un bond, il était guéri ». Pourquoi nous dit-on qu'il fallait qu'il laisse son manteau ? Alors j'ai posé la question à mes catéchumènes et tous les ans ils trouvent un certain nombre de réponses qui je crois sont toutes des bonnes réponses et peut-être que vous pourrez en trouver d'autres. Certains m'ont dit, eh bien peut-être que le manteau c'était sa seule richesse. Certainement, il était mendiant, donc il ne possédait rien d'autre que son manteau. Alors peut-être que cela voudrait dire que pour être guéri par le Christ, il faut être prêt à se dépouiller de sa seule richesse, de ce que l'on possède sur terre, et finalement dire, eh bien voilà, je cours vers le Christ en me détachant de ce que je possède matériellement. Peut-être. Ou alors d'autres m'ont dit, non, mais le manteau, c'était plutôt ce qui le protégeait du froid, du chaud, des intempéries. Alors peut-être aussi est-ce cela. Peut-être faut-il croire qu'il y a dans la démarche de la foi une sorte d'acte de confiance qui consiste à vouloir laisser de côté les protections extérieures, matérielles et factices que nous mettons autour de nous. Donc il faut, autrement dit, avoir confiance en Dieu, sortir de notre tour d'ivoire, sortir de nos forteresses, sortir de nos égoïsmes, des murailles que nous dressons par rapport aux événements, par rapport aux autres, par rapport à nos souvenirs, par rapport à tout, et dire, eh bien voilà, je me débarrasse de toutes ces murailles, de tous ces manteaux, et je vais tout nu vers le Christ, vulnérable en quelque sorte. J'accepte d'être vulnérable et de faire confiance au Christ qui sera mon seul manteau. Autre solution, c'est quelqu'un qui m'a fait remarquer une chose curieuse en disant « Tiens, c'est bizarre parce que le manteau, c'est l'apparence que nous donnons de nous-mêmes. L'habit, c'est l'image que nous voulons donner de nous-mêmes. » Donc la Bible elle-même, d'ailleurs, dit que les riches, mettent de beaux habits, les pauvres sont habillés pauvrement, le pasteur met un manteau de pasteur pour bien montrer qu'il est dans sa fonction, et le chirurgien met une tenue de chirurgien, le footballeur de footballeur. Donc le manteau, c'est l'image que nous voulons donner de nous-mêmes. Je dirais, si j'étais un philosophe heideggerien, que le manteau, c'est un, avec des petits traits d'union, c'est un pour être vu des autres. Le manteau, c'est un pour être vu des autres. Voilà, ça c'est vrai. Et voilà ce qui est curieux, voilà quelqu'un qui a un pour être vu des autres et qui ne voit pas. Et là, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Quelqu'un qui ne voit pas, peut-être précisément parce que sa seule préoccupation était d'être vu par les autres. Peut-être que justement, il trouvera la vue lui-même lorsqu'il abandonnera son manteau, c'est-à-dire lorsqu'il abandonnera sa préoccupation à paraître, son souci d'être vu et d'être bien vu. À un moment donné, il va abandonner cette idée de donner une bonne image de lui, il va se lever d'un bond, tel qu'il est, en se fichant de l'opinion des autres, et tel qu'il est, il va se lever pour suivre le Christ. Et donc il y aurait peut-être là une mise en garde. Prenons garde de ne pas chercher à paraître autre chose que ce que l'on est, mais de nous mettre simplement au travail en suivant le Christ tel que l'on est. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'assez vrai. La recherche du paraître est assez stérilisante. Peut-être même que c'est paralysant. C'est-à-dire que ça nous immobilise parce que ça rend dépendant des autres et d'une certaine manière, ça nous conduit même à la mendicité, c'est-à-dire à être totalement dépendant de ce que les autres vont penser de nous, et ce qui est affreux, et finalement à ne plus rien pouvoir faire. Et il faut se moquer de son paraître pour suivre le Christ, et ça c'est la résurrection, puisqu'on trouve là le mot « résurrection », c'est-à-dire « il se relève », c'est le mot de la résurrection dans le texte. On a un petit peu la même chose en Matthieu 24, où Jésus dit que celui qui est dans un champ ne s'en retourne pas pour aller prendre son manteau. Certainement, quand on est dans le champ pour travailler pour le Seigneur, eh bien, ne vous préoccupez pas du regard des autres. Ou en Luc 22, 36, Jésus dit que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau pour en acheter une. C'est la même chose. Allez, mes frères, partez pour combattre dans ce monde, pour lutter contre le mal, contre l'égoïsme, contre la jalousie, la souffrance, la tristesse. Prenez l'épée du salut, l'épée spirituelle, l'épée de la parole pour combattre. Et si vous n'en avez pas, vendez votre manteau, c'est-à-dire votre apparence, votre désir de faire bonne figure, et mettez-vous simplement au boulot pour combattre dans ce monde pour le bien. Cherchez à agir plus qu'à paraître. Ne pas se regarder soi-même, mais regarder vers les autres, regarder vers le seul but. Chercher à être plus qu'à paraître, chercher non pas l'apparence, mais la qualité profonde de l'être, et ça se trouve par l'ouverture aux autres. Peut-être même, c'est une idée un peu impie, mais des fois je me demande si peut-être même c'était son propre manteau qui le rendait aveugle. C'est-à-dire qu'il était tellement préoccupé de s'emballer dans son manteau qu'il avait même mis la tête dedans et qu'il ne voyait plus rien. Et donc il était enfermé dans sa crainte de bien paraître, ou de mal paraître plutôt, et finalement il n'y voyait rien parce qu'il ne faisait que se regarder lui-même, comme celui qui marcherait ou qui courrait dans la rue en regardant son nombril, il va nécessairement se cogner à tout obstacle. C'est-à-dire que c'est le narcissisme, c'est l'égoïsme qui tue. Et ça me fait penser aussi à une histoire que j'avais lue quand j'étais enfant, avec une histoire de Schtroumpf, qui peuvent être des fois très, très édifiantes. Il y a une histoire où il y a un Schtroumpf coquet, je crois, qui se regarde dans l'eau, et il regarde son image, et il ne voit pas venir un autre Schtroumpf, le Schtroumpf plaisantin, je ne sais plus comment on l'appelle, le Schtroumpf farceur, et qui arrive et qui jette une pierre dans l'eau, et finalement il est éclaboussé par la pierre qui est jetée par l'autre. Et je dis ça, c'est une belle image du fait que quand on est dans la seule préoccupation de se regarder soi-même, eh bien, on ne peut être qu'éclaboussé par l'intrusion du regard de l'autre. Lorsque l'autre arrive, eh bien son regard nous éclabousse, à moins qu'on s'éloigne de l'étang et qu'on ne cherche pas à regarder sa propre image dans son miroir. Et c'est vrai que le Christ, avant la Passion, va renoncer au paraître. Ça s'est dit dans l'Évangile de Jean, au moment du lavement des pieds. On dit que Jésus enlève son vêtement, il enlève son manteau, il se met tout nu, mais un simple linge autour des reins, et là il va laver les pieds de ses disciples. Et ça c'est extraordinaire, c'est bien l'exemple justement du Christ qui renonce à l'apparence, qui renonce à dire « moi je suis grand, beau et fort, mettez-vous à genoux devant moi ». Il se fait serviteur, il se fait petit, et ce qui est extraordinaire c'est que Jésus, même dévêtu, garde toute son autorité. Et c'est peut-être là qu'on voit la vraie valeur d'un individu. Que reste-t-il d'un individu quand on lui enlève le paraître? Et là encore, ça me fait penser à quelque chose que l'on m'avait dit quand je passais des concours et que j'étais, comme tout le monde, angoissé à l'idée d'être confronté à un examinateur. Et quelqu'un m'avait donné un bon conseil que vous pouvez utiliser d'ailleurs si vous êtes convoqué par votre patron ou un recruteur, je ne sais quoi. Et quelqu'un m'avait dit, quand tu dois être confronté à quelqu'un qui t'intimide, imagine-le en caleçon ou imagine-le sur le siège des toilettes, voilà, comme tout le monde. Et tout de suite, tu verras que cette personne va perdre une grande partie de sa superbe et de sa grandeur. Eh bien, le message est beau. Effectivement, ce que nous valons vraiment n'a rien à voir avec notre statut social. Et le vrai jugement, c'est que reste-t-il de la personne quand on lui enlève toute son apparence. Peut-être que justement, dans le jugement dernier, eh bien, nous paraîtrons tous en caleçon, voilà, tous égales. Le PDG n'aura plus son beau costume trois pièces, l'ouvrier n'aura plus son bleu de travail, et le SDF n'aura plus son pantalon troué. Nous serons tous comme nous sommes. Et ça, c'est le bel exemple au milieu d'un drame, qui est celui des camps de concentration, où justement ces êtres humains réduits au minimum, qui n'avaient plus ni vêtements, ni santé, ni apparence, ni possession, ni même espérance de retrouver la vie parfois, ou de retrouver quoi que ce soit, ces êtres humains auxquels on avait tout retiré, eh bien certains se sont révélés être d'une grandeur extraordinaire. Et certains se sont révélés être des grands personnages. Et c'est là la vraie valeur. C'est cette personne qui arrive à garder sa grandeur, même quand on lui a retiré tout son statut et tout ce qu'il prétendait s'accumuler sur lui-même. Et le Christ est de celui-là. Le Christ garde toute son autorité et sa grandeur, même lorsqu'il n'a plus son vêtement. Dans son jugement, on lui retire sa belle robe, on lui met un manteau de pourpre, on lui met une couronne ridicule d'épines, et Jésus est encore notre roi. Et ensuite, le Christ est crucifié, et là se trouve un des grands débats de la théologie médiévale, de savoir comment Jésus était sur la croix. Parce que les textes nous disent qu'on lui a retiré sa robe, ensuite on lui a mis un manteau de pourpre, on a retiré le manteau de pourpre, et donc question, comment Jésus était-il habillé sur la croix? Certains ont dit qu'on lui avait laissé un sous-vêtement, et d'autres ont dit certainement pas, il était tout nu sur la croix. C'est un débat théologique plus important qu'il n'y paraît, et en raison de ce que je vous dis là, je crois moi que Jésus était tout nu sur la croix, c'est-à-dire qu'il n'avait plus rien. Il était revenu peut-être comme Adam et Ève avant même la chute, et en tout cas il était tout nu, et Jésus, même nu sur la croix, est encore le Fils de l'homme, il est encore notre roi, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, et il est l'humain, l'homme par définition, il est le Fils de Dieu. Alors certains choisissent de miser dans le visible et l'apparence, et ceux-là, je crois, sont rendus aveugles parce qu'ils ne savent plus voir l'essentiel qui est invisible pour les yeux. Parce que le visible est pour un temps. Le visible, c'est le temps, je dirais, de l'attente sur le bord du chemin, qui n'est qu'une attente un peu décourageante. Mais l'invisible est éternel. L'invisible, c'est le don de soi, et c'est l'œuvre pour laquelle nous nous levons. Et dans le Christ, nous sommes tous, effectivement, je dirais, comme des enfants qui grandissent, et nous sommes tous jeunes dans l'invisible de notre dimension spirituelle. L'invisible est éternel, et nous cherchons, nous, à plaire, non pas aux hommes, mais à plaire à Dieu. Et ne soyons donc pas aveuglés par notre préoccupation à paraître devant les hommes, mais comme cet aveugle Bartimée, abandonnons nos manteaux pour nous lever à la suite du Christ. Et grâce à Dieu, eh bien, notre imperfection même pourra être couverte par le seul vêtement acceptable qui est le Christ lui-même. Donc abandonnons nos cache-misères matérielles pour croire que, comme le dit Paul, nous sommes invités simplement à revêtir le Christ, parce que lui seul est capable de cacher la honte de notre misère, lui seul est notre manteau de lumière, et en revêtant le Christ, nous revêtons l'incorruptibilité. Amen.